Et sur RFI, il est maintenant 14h, temps universel, 15h ici à Paris, 18h à Tbilissi. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
Et dans ce journal, l'hôpital Kamal Adwan de Gaza, HS hors service, fermé après un raid israélien. C'était le dernier grand hôpital encore opérationnel dans le nord du territoire palestinien. Des excuses de Vladimir Poutine adressées à son homologue d'Azerbaïdjan après le crash d'un avion qui a fait 38 morts cette semaine. Le Kremlin a admis que la défense aérienne russe était en action à ce moment-là. Une chaîne humaine à Tbilissi ce samedi, nouvelle manifestation en Géorgie. Et cela la veille de l'investiture du nouveau président contesté par l'opposition pro-européenne. Oui, c'est un hôpital crucial pour les populations du nord de la bande de Gaza, ou plutôt c'était. L'hôpital Kamal Adwan n'est plus en état de fonctionner selon l'Organisation mondiale de la santé. Il a été très endommagé par un raid israélien et selon le ministère de la santé du Hamas, son directeur est désormais détenu par l'armée israélienne, Heike Schmitz.
Avec des services clés incendiés, voire totalement détruits, l'hôpital Kamal Adwan est désormais hors service, affirme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui s'inquiète pour les 60 soignants et les 25 patients qui se trouvent encore à l'intérieur dans un état critique pour certains. D'après le ministère de la Santé du Hamas, l'armée israélienne a pris d'assaut l'hôpital, forçant patients et infirmières à se rassembler dans la cour et à se déshabiller dans un froid glacial. Depuis plusieurs jours déjà, le directeur de l'établissement, Hossam Abu Safiya, avait alerté sur le fait qu'il était pris pour cible. Actuellement, il serait détenu et interrogé avec des dizaines de membres du personnel médical. L'hôpital aurait servi de cachette aux terroristes, pointent les Israéliens. Ils accusent régulièrement le Hamas d'utiliser les hôpitaux pour lancer des attaques contre ses forces, ce que le Hamas dément catégoriquement. L'hôpital Kamal Adwan était le dernier encore opérationnel dans le nord de Gaza.
Heike Schmitz, un entretien téléphonique entre le président russe et son homologue d'Azerbaïdjan après le crash de l'avion d'Azerbaïdjan Airlines cette semaine qui a fait 38 morts. Vladimir Poutine, lors de ce coup de fil, n'a pas reconnu la responsabilité de la Russie, mais le Kremlin a admis que la défense aérienne russe, la défense anti-aérienne, était en action au moment du crash. Et Vladimir Poutine a présenté ses excuses à Ilham Aliyev pour le fait que cet incident tragique, je cite, se soit produit dans l'espace aérien russe. Les États-Unis, eux, ont évoqué un tir de la défense anti-aérienne russe. La chef de la diplomatie européenne appelle ce samedi à une enquête rapide et indépendante. Des milliers de manifestants rassemblés aujourd'hui à Tbilissi, en Géorgie, contre le gouvernement pro-russe, moment particulièrement symbolique à la veille de l'investiture prévue demain du nouveau président, Mikhaïl Kavelachvili. Sa nomination est contestée par l'actuel présidente pro-européenne Salomé Zourabichvili, comme par une partie de la population mobilisée chaque jour depuis un mois maintenant pour défendre l'adhésion du pays à l'Union européenne. Ce mouvement ne devrait pas empêcher l'investiture, mais pourrait se poursuivre, Régis Janté.
A priori, oui, mais c'est vrai que l'intensité, la dynamique de l'opposition au pouvoir en place, le rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanichvili est très forte. Elle dure en fait depuis plus d'un mois, elle dure depuis 8 mois, et je dirais même elle dure depuis 3 ans. Donc il y a vraiment en permanence des crises en Géorgie du fait du cours pro-russe qu'est donné à la politique étrangère de la Géorgie. Et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase il y a un mois lorsque le Premier ministre a annoncé le gel du processus d'intégration de la Géorgie avec l'Union européenne, et ça a redéclenché la contestation. On s'est retrouvé très vite avec 50 000 personnes dans les rues. Dans un pays de 3,7 millions d'habitants, c'est vraiment beaucoup. Ce serait l'équivalent de 1 million de personnes dans la rue en France, par exemple. Donc c'est vraiment très important. Et là, on ne sait pas dans quelle mesure ce mouvement va continuer, mais tout indique qu'il va le faire certainement et défier le pouvoir et défier la mise en place de M. Kavelachvili.
Régis Janté, notre correspondant en Géorgie, au micro de Marion Kazanov. Régis Janté, que l'on retrouve à poursuivre cette investiture donc prévue demain de Mikhaïl Kavelashvili. En Corée du Sud, on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé le 3 décembre dernier, le jour où le président Yoon Suk-yeol a tenté d'imposer la loi martiale avant de faire marche arrière quelques heures plus tard. Selon un rapport du parquet sud-coréen, le président, aujourd'hui déchu, avait autorisé l'armée à ouvrir le feu pour entrer au Parlement. Cassez la porte et sortez-les, même si cela veut dire qu'il faut tirer. C'est ce qu'il a déclaré, selon ce rapport, lors d'un appel téléphonique avec le commandant militaire de Séoul. De quoi enfoncer encore un peu plus Yoon Suk-yeol, qui fait l'objet d'une enquête pour rébellion. Dernier hommage à Manmohan Singh en Inde ce samedi, funérailles nationales pour l'ancien ministre, ancien premier ministre, artisan du boom économique du pays entre 2004 et 2014. Son cercueil recouvert de fleurs a été transporté à travers la capitale New Delhi. Le premier ministre Narendra Modi a salué l'un des plus grands dirigeants que l'Inde ait connu.
RFI, Radio France Internationale.
Le premier volet d'un week-end électoral au Tchad. Les opérations ont débuté ce samedi, opération de vote, avec donc le vote des militaires et des nomades d'abord, avant de s'élargir demain au reste des Tchadiens. Triple scrutin pour élire les députés, les maires et les représentants locaux du pays. Triple scrutin présenté par le régime du président Mahamat Idriss Itno comme la dernière étape de la transition politique, mais boycotté par de nombreux opposants. Aux États-Unis, c'est peut-être un premier sujet de désaccord entre les deux alliés Donald Trump et Elon Musk. Le patron de Tesla défend l'importance du visa réservé aux travailleurs étrangers qualifiés. Pour lui, ils sont essentiels à la réussite des États-Unis. Une position qui provoque une levée de bouclier parmi les conservateurs anti-immigration et qui révèle donc peut-être les premières fissures parmi la coalition Trump-Lumdanaki.
Attirer le top 0,1% des ingénieurs talentueux grâce à l'immigration légale est essentielle pour que l'Amérique continue de gagner. Cette phrase, publiée par Elon Musk sur X, a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux et dans la sphère des Trumpistes ultra-conservateurs. Le patron de Tesla répondait aux déclarations de Laura Loomer, une influenceuse conspirationniste d'extrême droite et proche de Donald Trump. Elle avait vivement critiqué le choix du président élu de nommer Sriram Krishnan, un entrepreneur indien-américain, à un poste clé sur l'intelligence artificielle. Cet échange entre Elon Musk et Laura Loomer a donné lieu à ce que les médias américains appellent désormais une guerre civile entre les alliés de Donald Trump sur la question du visa H1B, le visa réservé aux travailleurs qualifiés. Les grands patrons, notamment dans la Silicon Valley, estiment ce visa vital pour leurs entreprises. Il y a une vraie pénurie d'ingénieurs talentueux et motivés aux États-Unis, a insisté Elon Musk, qui a lui-même bénéficié de ce programme de visa. Une position en contradiction avec le calendrier migratoire de Donald Trump, a répondu Laura Loomer. Elle a reçu le soutien de plusieurs républicains et de Stephen Miller, futur directeur adjoint du cabinet de Donald Trump, le président élu, qui lui reste pour le moment silencieux sur le sujet. Loubnanaki, New York, RFI.
Aux États-Unis, encore une bonne et une mauvaise nouvelle selon les autorités sanitaires. La mauvaise, c'est la détection ce mois-ci d'un premier cas grave de grippe aviaire chez l'homme. La bonne, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'éléments qui indiquent que le virus soit plus transmissible. La grippe aviaire qui s'est étendue globalement en cette année 2024 des volailles vers les oiseaux sauvages, puis chez les mammifères et donc les humains. Les experts surveillent de près l'évolution du virus, Marie Leveugle.
Bovins, furets, porcs, visons, renards ou encore chats, la grippe aviaire ne touche plus seulement les oiseaux d'élevage. Certaines souches du virus affectent les mammifères, 70 espèces sont désormais concernées, contre seulement 4 en 2021. Jean-Luc Guérin est virologue à l'INRAE.
Ce qui est caractéristique de 2024, c'est la contamination des bovins. C'est un phénomène qui est inédit, qui montre la grande capacité d'adaptation de ces virus. Ça veut dire que ces souches-là, elles ont acquis un peu plus de capacité à franchir la barrière d'espèces vers les mammifères et vers l'homme.
Plus un virus circule, plus il a une grande probabilité de muter. D'après les chercheurs, la souche qui circule actuellement chez les vaches américaines est ainsi en train d'évoluer. Elle se lie de plus en plus efficacement aux cellules humaines. Le risque, c'est donc que la grippe aviaire puisse à terme se transmettre facilement d'humain à humain. Malgré tout, Jean-Luc Guérin se veut rassurant.
Ça ne veut pas dire qu'il y a aujourd'hui des chaînes de transmission, de contamination d'homme à homme, mais ça allume un warning, si vous voulez, dans la communauté vétérinaire. Et si là, on a une chaîne de transmission, Là, on a un risque d'évolution vers une possible pandémie.
Même aux États-Unis, où une soixantaine de personnes ont été diagnostiquées cette année, les autorités sanitaires jugent que le risque pour la santé publique est faible.
Marie Leveugle, 15h10 ici à Paris. Le temps passe trop vite, mais on se retrouve pour le prochain journal après la marche du monde. À tout à l'heure.